Vous écoutez Laurence Écoute Parler, le podcast.
Parti à la pêche, mesdames, messieurs, dans les marécages de la Floride. On en profite pour parler de boxe, puisque le service des sports parle d'hockey, puis d'hockey, puis d'hockey, puis d'hockey, puis d'hockey. Pour le mois de juillet, on parle d'hockey, puis d'hockey, puis d'hockey, puis d'hockey. Mon bon ami Pierre Trudel, il aime donc ça, le hockey, même au mois d'août, du hockey, puis du hockey, puis du hockey. Nous parlons de boxe, un sport élégant que les femmes aiment beaucoup.
En direct pour l'épisode numéro 10 de Laurent s'écoute parler, ton podcast préféré. Fin de semaine de tous les moments. Présentement, j'ai eu de la misère à sortir du lit, à me déplacer tellement que ça brassait hier soir au resto-bar Le Coin du métro. Aujourd'hui, on va revenir sur la carte de Rimouski et on ne parlera pas de la performance de Dave Morissette. On va faire le tour de la carte de Rimouski avec David Tétrault qui avait beaucoup de choses à nous raconter cette semaine. On va bien sûr, je vais vous parler de Simon Kane un petit peu plus en profondeur. Dans le journal de ce matin, on raconte que Camille et Stéphane pensent déporter Simon Kane en Russie pour qu'il s'entraîne avec André Ivitchuk. Toute une histoire digne de l'ancien compte, mais à l'envers. Au lieu que ce soit le bloc de l'Est qui vienne ici, c'est nous qui enverrions un boxeur dans le bloc de l'Est. On va aussi parler, ça c'est quelque chose que j'avais hâte de vous raconter, la France versus le Québec. Il y a comme un historique où on fait venir des boxeurs français pour affronter ceux d'Eye of the Tiger et ça finit toujours mal. Et sur ce dossier, je vais défendre mon ami Anthony Lécarie. Et bien sûr, on n'aura pas le choix de parler de Tyson Fury qui reprend le trône chez les poids lourds. Laurent s'écoute parler, le seul podcast qui ne changera jamais de producteur parce que c'est Laurent qui fait tout de A à Z.
Salut, c'est le Chris. Je viens de me casser le bras en sortant de fumer de le demi-bourbien. Et puis là, ben, pour passer le temps, écoute ça le podcast à Laurent. Laurent s'écoute parler.
J'ai fait ce que je fais le mieux quand j'ai besoin d'avoir quelques sous pour investir sur le podcast. Je suis allé voir mon ami Costa Ananostopoulos, le propriétaire du resto-bar Le Coin du métro. Puis là, Costa m'a dit « Hey, c'est bon ton podcast, mais le son part souvent par en haut, par en bas, ce qui fait qu'on peut se briser un tympan quand on l'écoute avec nos écouteurs. » Donc, j'ai dit à Costa, « Ben, t'as juste à me payer un micro, cher ami. » Et j'ai encore réussi. Costa m'a payé un beau petit micro que je peux accrocher après mon iPhone et ça devrait améliorer le son et votre expérience d'écoute. Premier segment aujourd'hui, on n'a pas le choix de parler de Tyson Fury. Moi, j'étais au resto-bar Le Coin du métro avec plein de belles personnes, dont mon ami Marie-Pierre Houle. J'aime ça dire aux gens que Marie-Pierre Houle, c'est mon ami. Et on a vu Tyson Fury l'emporter au 7e round par ce qu'on peut appeler un arrêt du coin parce qu'ils ont lancé la serviette ou un arrêt de l'arbitre parce que ça dépend, là. Choisissez le terme que vous voulez. Donc, Tyson Fury, aujourd'hui, il a une fiche de 30 victoires, 0 défaites, 1 nul. Wilder, lui, sa première défaite, 1-0, devait partir. 42-1-1. Toutefois, excusez-moi, je viens de tousser dans le micro. Toutefois, le seul problème, là, c'est que à partir du moment où le combat finit nul, il y avait une clause de rematch. T'sais, Wilder s'est protégé. Mais là, Wilder était encore champion du monde après la nulle. Fait qu'il a renégocié cette clause-là de revanche. Donc, votre Deontay Wilder a 30 jours pour accepter ou non la clause de revanche. Donc, on se dirige vers une trilogie. Lui, ce qu'il va dire, c'est « Regardez, j'aurais pas eu le tympan défoncé. J'aurais probablement été capable de tirer mon épingle du jeu. J'aurais pas été étourdi à partir du deuxième. J'aurais mieux boxé. » Du côté de Fury, on a vraiment vu que son game s'est vraiment amélioré avec la présence de Sugar Hill et du Kronk Gym dans le coin. Tu sais, le Kronk Gym à Détroit, il était déjà très réputé, mais là, je vais vous dire une chose. La publicité, la crédibilité derrière le Kronk Gym vient encore de monter à un autre niveau. Donc, tu sais, aujourd'hui, Fury, ben, il y a pas mal de ceintures. Il y a la ceinture de la WBC. Joshua a encore toutes les autres ceintures, mais c'est pas Joshua qui est au sommet du monde parce qu'on l'a vu perdre contre Andy Ruiz. Joshua, lui, va affronter Kubrat Pulev à son prochain combat. Puis tout ça devrait nous mener à un combat entre Fury et Joshua qu'on va refuser du monde dans un stade en Angleterre. Il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas donner le crédit complet à Fury pour une victoire exceptionnelle parce que Wilder était blessé. Mais tu sais, une blessure en boxe, mais malheureusement, ça fait partie des choses qu'on inflige en frappant sur l'adversaire. Puis à partir du moment où tu réussis à atteindre l'adversaire, à le blesser, mais tu sais, c'est toi qui s'est offert un avantage en atteignant l'adversaire. Puis on a vu un Wilder complètement débattu. Il saignait de l'oreille, il saignait de la lèvre, il avait la joue gauche qui commençait à enfler, il commençait à avoir de la misère à marcher. Puis Fury, on voit que c'est vraiment amélioré sa force de frappe avec la présence du Kronk Gym. Donc là, ça nous amène à Wilder qui va avoir 34 ans dans 5 mois, qui va accepter la trilogie parce qu'il y a du côté de Wilder, là, il a refusé 100 millions un contrat de DAZN. Fait qu'il se ramasse pris un peu, peinturé seul de son bord chez PBC. Donc, tu sais, la seule vraie façon pour lui de mettre beaucoup d'argent dans ses poches, une autre fois, ça va être de demander la revanche auquel il a droit contre Tyson Fury, même si le combat qu'on vient de voir était littéralement d'un seul côté. C'est pas un mauvais move pour sa carrière. T'sais, on ramasse l'argent, on espère. Imaginez s'il gagne la trilogie, on ramènera un quatrième combat, mais dans l'histoire de la boxe, ce que ça nous dit, c'est que lors d'une trilogie, si tu as dominé les deux premiers combats, tu vas détruire ton adversaire au combat numéro 3. Du côté de Fury, lui, il a vraiment été un peu surprenant. Il a dit, mais j'ai encore hâte d'affronter Wilder puis de le démolir. Donc, c'est un peu ça qui va être intéressant à suivre. Est-ce que Wilder va demander tout de suite la revanche? Est-ce qu'on va être capable de faufiler un Joshua contre Fury? Ou, tu sais, je vais vous dire, je pense que les deux feraient minimum 100 millions chaque. Fait que, vraiment, Fury retourne au sommet des poids lourds. Tant mieux pour nous autres, tant mieux pour la boxe, puis vivement la suite des choses.
J'ai pas beaucoup d'amis dans la vie. Je préfère la qualité à la quantité. Je vous présente l'un d'eux, David Tétrault de Boxe au menu.
Il y a une chose que je ne veux plus jamais entendre, c'est Dave Morissette comme annonceur maison, mais David Tétrault comme chroniqueur, ça j'aime ça. Salut David.
Salut Laurent, je seconde ta motion.
Je sais pas à quoi qu'ils ont pensé chez TVA Sport, mais c'était pénible de voir le pauvre Dave Morissette. Il avait l'air de reculons dans une chaloupe.
Ouais. Toi qui aimes la lutte, des fois, tu vas au bar le 9-9 là, sur Hochelaga. Ça ressemble-tu à ça un peu, les gens qui annoncent les lutteurs? Là?
Ben non, c'est 100 fois mieux.
C'est 100 fois mieux. Bon, mais parfait. Non, c'était bizarre.
David, si je t'ai sollicité ce matin, c'est pour... je sais que tu as écouté attentivement le gala sur TVA Sport hier.
Oui.
Moi aussi. On va faire un peu la nomenclature combat par combat. Thomas Chabot, en partant. Tu vois ça comment?
Thomas Chabot, c'est sûr que, bon, en partant, il était très excité, les mains basses. Jamais vu venir le coup comme en contre-attaque, espèce de main droite. Mais c'était prévisible parce que juste avant, il venait de se faire connecter. Puis il a quand même continué à foncer. Mais ça, c'est de la belle expérience. Puis il a quand même été résilient parce que, tu sais, il a quand même fait ce qu'il avait à faire. Puis il n'a pas fait durer le combat. Mais c'est de l'apprentissage. Moi, je vois pas ça comme... Je vois rien de négatif là-dedans dans le sens que c'est de l'apprentissage. La boxe professionnelle, là, quand tu te fais connecter avec des gants de 8 ongles, c'est pas comme des gants de sparring. Puis c'est ça. Je ne le connais pas beaucoup, ce boxeur-là, mais je veux dire, ça change aucunement mon opinion, là, dans le fond. Je veux le voir encore.
Ben, moi, j'étais un petit peu, sans dire que je t'inquiète, j'étais un petit peu inquiet. Si tu commences à tomber à 19 ans, tu sais, le mâchoire, ça s'entraîne pas vraiment, mais ça va être. Je pense qu'ils vont faire des ajustements. Comment tu as trouvé le combat de Mathieu Duguay contre Armando Morales Gutiérrez?
Ben moi, honnêtement, c'est pas exactement des trucs que j'aime beaucoup voir, dans le sens que, tu sais, c'est sûr qu'au final, c'est une belle guerre, ça divertit les gens, mais tu sais, quand on a vu Mathieu à savoir sur quelle planète il était, moi, c'était comme un appel à l'aide. Je serais pas surpris qu'il ait été à l'hôpital après, je sais pas ce qui se passe, mais il avait l'air. Tu peux pas jouer avec ta santé quand tu t'en vas dans de la boxe professionnelle à 35 ans, même si t'es bien entouré. Au final, là, c'était juste un 4 rounds, puis ça aurait pu vraiment mal virer pour lui.
Moi, j'étais fâché. Sans dire que j'étais fâché, je comprends pas pourquoi ces gars-là ont ce gars-là a une licence de boxe professionnelle. Ouais. À la limite, oui, c'était divertissant, mais il y a bien des bagarres aussi à sortir des clubs qui sont divertissants. T'sais,
exactement.
Moi, ça me donne pas... oui, pour le spectacle, je dis OK, mais... Je sais pas, j'ai pas besoin de voir ça. Ça sert à rien, le gars, 35 ans. Hubert Poulin, une belle victoire aussi, mais tu sais, c'est pas des gars en développement, là, c'est des gars dans la trentaine.
C'est ça. Y a pas... Hubert Poulin, je te dirais que c'est peut-être le combat que j'ai le moins regardé, là, mais bon, c'était un 4 round, il l'a gagné, il était content, il est fier de lui, puis c'est tant mieux, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a eu trop de combats hier sur la carte? C'est gratuit. Ben, c'est sur ceux qui ont le câble, mais c'est sur TVA Sport. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Laurent, par exemple. T'sais, les gens qui sont abonnés à Punching Grace, qui payent leur abonnement par mois pour les combats, souvent d'ailleurs, of the Tiger, c'est pas toujours des gens qui ont accès au câble de TVA Sport. Puis là, je me suis fait dire qu'hier, il n'était pas sur Punching Grace parce que dans le fond, il était en primeur sur TVA Sport. Le point que je veux t'amener, c'est que je me dis, tu sais, les gens qui payent et les abonnés fidèles de Punching Grace, dans le fond, hier, ils ont été brimés, c'est ça pour que je comprenne.
Ben oui, mais c'est parce que le problème, c'est que ça prend le budget de TVA Sport pour amener David Lemieux sur la carte. Là, on a vu, ben, David est disparu.
Ouais.
Mais, tu sais, Punching Grace, t'as raison, mais pour le même 11$, tu vas avoir le 12 et 14 mars dans le même, dans le même 30 jours. Fait qu'on peut dire, il en donne quand même beaucoup habituellement.
Ben, le combat de Lexon Lemieux aussi va être sur. Lexon Mathieu va être sur.
Ouais, c'est ça, c'est le 12. Ah, il va être sur TVA Sport?
Oui, exactement.
Ah, OK, ouais, t'as raison, ça devient une problématique. Faut quand même
pas... Je ne tire pas sur Have the Tiger, c'est juste que je me dis, tu sais, parce qu'après ça, il n'y a plus grand-chose là, sur Punching Grace, il y a des vieux combats qu'on peut regarder, mais tu sais, c'est... En tout cas...
T'as raison, faut en donner peut-être un peu plus. On leur lance le message qu'on en veut toujours plus.
Oui.
As-tu aimé le combat de Léla Beaudoin? Moi, j'ai trouvé pour un deuxième combat contre une adversaire qui n'était pas de taille, mais elle a montré des belles choses. Elle a fait un beau combat, un combat qui ressemble à un combat qu'elle va pouvoir copier-coller contre l'élite. Là, c'est comme ça qu'il faut boxer.
Ben oui, pour vrai, parce que moi, je la connaissais pas, je l'avais jamais vu boxer, puis... C'est techniquement insolide pour de vrai. Là. Elle bouge bien la tête. C'est sûr que là, elle affrontait une fille qui a fait les débuts pro il y a 3 mois, qui se battait
à 19 ans.
Qui se battait, je pense, à 126. Là. Fait que c'est comme c'est deux. C'est une classe ou deux en dessous de où elle se battait là. Mais techniquement, elle est là, comme pour vrai, elle est dans les top filles féminines. Techniquement, je te dis, c'est sûr qu'elle n'a pas l'adversité que les Kim Clavel et les Marielle Dicker ont eu encore, mais je veux dire, elle s'est boxée, elle est bien assise sur ses coups. Un bon jab, elle a l'air d'être capable. C'est sûr que là, c'est peut-être péjoratif, mais c'était vraiment hier. C'était vraiment un sac qu'elle avait devant elle. Tu sais, puis c'était pas joli. Mais moi, pour vrai, j'ai envie de la voir. Puis c'est ma découverte, ma surprise, mettons, du gars-là. Parce que je la connaissais pas du tout. Fait que,
ouais, moi aussi, j'ai même opinion que toi. C'est elle qui a bien paru hier dans les nouveautés qu'on amenait à l'écran. Sébastien Roy contre Flavio Michel, un combat qui semblait se diriger sur un blanchissage. Michel a fini un peu plus fort. Moi, j'ai quand même Sébastien Roy gagnant. J'aime bien Sébastien Roy, mais La boxe va devenir cruelle quand tu n'as pas plus de force de frappe que ça, quand, au niveau que les, quand les adversaires vont augmenter.
Exactement. C'est exact, je pense exactement comme toi, parce que quand tu es rendu à 9 combats, un seul KO, plus ça va avancer, plus les adversaires vont être... Les KO viendront plus. Fait que là, premièrement, bon, ta boxe, la boxe est correcte, c'est pas un boxeur A+, mais en plus, tu n'as pas le power pour peut-être changer la dynamique d'un combat ou, tu sais, ça va être des combats en ligne droite. Ça peut être dur à vendre, par exemple, ça. Si on parle du marketing, là, Sébastien Roy, c'est pas... Il y a une horde de fans fidèles qui suit Ted Fairmind, ça, je comprends. On veut-tu voir un rematch contre Flavio Michel? Ben, Flavio Michel, quand il a pris le micro à Dave Morissette, en disant « T'as pas gagné », tu sais, c'est... Il a quand même crash le micro de Dave Morissette.
Mais moi, en même temps, c'était à lui d'en faire plus dans la première moitié du combat. Je
suis d'accord, mais Flavio Michel, c'était un gars de 9-5 qui était vraiment lent, vraiment large. Puis Sébastien Roy, il a peut-être gassé out un peu, mais il a quand même eu de la misère à venir à bout du je pense qu'il est 350e ou 500e sur BoxRec, tu sais. C'était de l'adversité, mais c'est plate à dire, mais tu sais, ces deux gars-là sont pas mal du même calibre.
C'est un peu comme Clovis Drolet la dernière fois. Exact. Si tu veux passer au niveau supérieur, tu es supposé détruire un peu les opposants locaux qu'on t'amène. Puis là, tu te détruis pas, mais...
Ben, Drolet, c'est pire. Il a tombé deux fois.
Mais là, on a comme situé un peu le niveau de Sébastien Roy pour le moment. Nurzad Zabirov, moi, j'espérais qu'il finisse ce gars-là. Il nous montre qu'il a tous les outils. Peut-être lui aussi, pour le moment, sans manquer, peut-être pas la force de frappe pour aller jouer avec les grands, mais il y a tout le reste de la boxe que pour les 168 livres.
Ouais, mais j'ai pas été impressionné du tout quand même. Tu sais, si on parle des 168, je trouve que Bazian est vraiment une grosse coche en haut. Tu sais, des fois, je me dis quand... Je sais pas, lui, a-t-il une grosse fiche amateur?
C'était même un gars qui se dirigeait vers les Olympiques avant de se faire prendre par de la politique dans son pays.
OK. Parce qu'on voit que peut-être que le saut ne l'aide pas. Ben, c'est de l'apprentissage aussi, mais tu sais, je me dis à quel point, c'est sûr que des fois, tu te fies sur la fiche amateur pour, mettons, aller le chercher dans son pays puis l'amener ici, mais c'est un gars qui est dur à vendre, il n'est pas super spectaculaire. Tu sais, il ne parle pas français, il n'est pas connu, tu sais, ça va être dur de... Puis, il n'y a pas le style aussi. Je trouve que surtout, il n'y a pas un style « wow », mais...
Moi, j'ai une théorie, là. J'ai une théorie pour tout ça. Eye of the Tiger, je ne cherche même pas à les vendre ici. On y développe. Après ça, il les passe à De La Hoya.
Si c'est le plan, c'est le meilleur plan, que c'est le meilleur plan possible. Parce que c'est sûr que, du point de vue local, ça ne fonctionnera pas. Mais si c'est ça, leur motivation avec ces boxeurs-là.
Quitte à réinvestir l'argent de De La Hoya au Québec après.
C'est pas mal d'abord.
T'espères avoir un nouveau David Lemieux là, dans toute la meute. Puis après ça, on ramènera les dollars comme un genre de Robin des Bois. Éric Bazignan. Ouais, mais
c'est cruel, par exemple.
C'est cruel.
Faut que tu sois maître de ton village, maître de ta ville. Puis après ça, t'exportes. Mais là, ça va être difficile quand t'as de la misère à être connu dans ton coin de pays qui est présentement le Québec. Mais en tout cas, à suivre. Mais...
Éric Bazignan, Tim Olaine. Plus belle performance de la soirée. Quasi de la boxe parfaite de la part de Bazignan.
Oui, ben Bazignan, il est bon. Il est sharp. Il est bien rapide. Là, c'est sûr que tu sais, c'était pas la grosse coche. Mais je me demande juste des fois, tu sais, à quel point. Tu descends dans les classements pour parfaire certains trucs, mais je ne sais pas à quel point des boxeurs comme ça peuvent l'aider dans sa progression. C'est sûr que, tu sais, si, mettons, Marc Ramsey dit « Bon, ben là, on travaille les combinaisons, on travaille ta façon que tu as de dicter le combat, mettons, puis de mettre de la pression. » C'est peut-être le genre d'adversaire qui peut faire la job. On t'a Rimouski aussi, mais ça va quand même prendre un petit peu plus que ça pour l'amener au championnat du monde.
Je t'amène mon idée, OK? Il s'est battu cinq fois en 2008, puis deux fois en 2019. Cinq fois en 2018, deux fois en 2019.
Ouais.
C'est un gars qui a juste 24 ans. Il faut qu'il boxe, il faut qu'il boit des rondes. Fait que je pense qu'on s'est dit, on a une opportunité d'ouvrir ton année en février. On est en dehors de La Hoya qui paye. On ne va pas aller chercher un méga adversaire, mais tu vas boxer, puis on va prendre de l'avance sur 2019. Ça, c'est un peu mon idée. Simon King, gagne au troisième.
Ouais.
C'était pas chic.
Non.
Il y en a qui se plaignent de sa coupe de cheveux. Moi, je veux t'amener mon idée, OK?
OK.
Robert Cléroux, il n'a jamais été champion du monde. Il a un boulevard, puis il a rempli des arénas.
Ouais.
Même chose pour Jean-François Bergeron. Jamais été champion du monde. Il a à peine appartenu au top 15 d'une division. Aujourd'hui, tout le monde le respecte. Patrice Lheureux, c'est la même chose. David Cadieux dans son coin de pays. Simon Kane, je te fais une annonce officielle. Là. Il ne sera jamais champion du monde. Mais on a eu du fun. Il a fait des finales. Il a rempli des galas. Je pense qu'il mérite peut-être un peu plus de sympathie du public.
Sais-tu c'est quoi? Sais-tu ça part de où? Dans la vie, ça part des attentes qu'on a. Des attentes qu'on a et des attentes qui ont été placées en lui. C'est sûr que tu sais, Simon, c'est un Olympien. Il est allé aux Olympiques. Puis tu sais, on nous l'a vendu comme un bon boxeur, comme un boxeur qui allait... Tu sais, je veux dire, Camille et Stéphane s'est jamais caché que... Tu sais, avant sa défaite contre Dylan Kerman, on parlait de lui comme potentiellement bientôt, un combat de championnat du monde.
Il nous parlait de... Comment il s'appelle celui qui se bat ce soir, là? Martin?
Charles Martin,
oui. Oui, il nous parlait de Charles Martin comme un adversaire potentiel. Ben, il l'a mis dans la même phrase que Klitschko.
Tu vois-tu, Laurent, c'est de là que ça part. Les gens peuvent être... Tu sais, ça... Bon, ils n'ont pas oublié sa défaite, mais tu sais, on s'emballe beaucoup avec nos boxeurs, puis on les met tellement en haut sur un piédestal, puis quand ils tombent, quand ils trébuchent, on dirait que les gens, ils ont la mémoire longue, mais ils ont de la misère à comme pardonner ou passer par-dessus. T'sais, c'est sûr qu'hier, c'était tout croche, c'était pas élégant, mais il a gagné pareil. À quel point Daniel Marks voulait être là hier? Moi, c'est ce que je me pose comme question. Là, il a vraiment l'air d'un gars qui voulait pas être là.
Ah, puis Réjean Tremblay nous l'avait vendu que la dernière chance, un vrai camp d'entraînement, il veut plus servir des côtes levées dans son restaurant. Oh.
Non, ben c'est ça. Bon, Réjean, il aime ça. Il fait des belles histoires, mais au final, c'est pas ça quand même. T'sais, la réalité, c'est que c'est un gars qui perd plus qu'il gagne. Si tu vas voir sa colonne de victoire-défaite sur BoxRec, on dirait une canne de Noël. Là. C'est vert-rouge. Fait que, tu sais, il n'y a pas de... Ça, c'est Janico, c'est mon ami Janico qui m'a fait référence
à ça. Mais c'est très bon.
Puis, ben c'est ça. Fait qu'au final, bon... Moi, ce que j'ai peur un peu, c'est que Simon King se fasse faire mal quand il va frapper un petit peu l'élite. Quand il frappe
ça
un petit peu
à la fin. Ça va être
ben, je vois pas comment que le direct, il n'est même pas direct. Le jab, et les pieds sont pas ancrés. Tu sais, c'est un peu pas mal tout croche, mais ça fonctionne. Puis hier, là, oui. on peut rien y enlever. Simon, c'est sûr qu'il faut qu'il soit fier de lui. Il a gagné TKO 3, c'est correct. Mais Colin, que ça va
être... Ah, c'est louche. C'est l'entraîneur qui dit qu'il a régressé dans les tests physiques et qu'il ne veut pas continuer avec Jimmy Boisvert.
Ouais.
En tout cas, moi, je vais te faire ma prédiction. Là, en plus, c'est enregistré. Fait que dans un an, je vais passer pour un génie. Il y a 19 victoires, 18 par KO. On est en train d'y gonfler une fiche. Puis un jour, il y a un Joseph Joyce ou un Daniel Dubois qui va y payer une maison en échange de perdre rapidement dans le combat. Puis ça va ressembler à la fin.
Ben, Simon, il n'aura pas le choix un jour. Parce que tu parlais tantôt des Cadieux, des Lheureux. Puis des... Mais tu sais, Bergeron, il a quand même... Valouev quand il pouvait, tu sais... Un moment donné, quelqu'un t'appelle, lève la main et dit « Hey, je veux t'affronter. » Parce que regarde les classements. Simon, à force de gagner, va continuer quand même à descendre dans les classements. Fait qu'un moment donné, devient une cible pour les autres.
Puis il y a une belle fiche.
Puis il y a une belle fiche. Il est 19-1 ou 21. Fait que tu sais, il y a 18 KO. Fait que là, tu peux le vendre comme un puncher. Tu peux le vendre comme un gars qui a trébuché une fois, mais qui a vengé sa seule défaite en carrière par KO. T'sais. Il y a tout pour le vendre. Mais nous, on le voit évoluer. On le sait ce que c'est, mais moi, j'ai l'impression qu'il régresse techniquement. J'ai l'impression qu'il n'est plus derrière son jab. J'ai l'impression qu'il veut juste donner un show, je ne sais pas, mais il est capable de mieux que ça. Puis moi, c'est ce que je souhaite. Je souhaite de revenir à une pause, c'est-à-dire le jab long, attendre les opportunités. C'est pas grave si tu te rends 8 rounds, si tu rentres le monde le public dans la salle, ils ne seront pas fâchés contre lui, là, parce que.
Ben non, son plus beau combat, ça a été contre Alexis Santos. C'était la première fois qu'on, T'sais, qu'on le voyait avancer dans un combat avec un peu d'opposition, puis un gars qui essayait parce que Avery Gibson n'avait pas vraiment essayé cette fois-là. Mais moi, j'aimerais juste dire aux gens, tu sais, appréciez Simon. Ils ne seront pas tous champions du monde, puis il donne un bon show, il est en finale, il permet à d'autres boxeurs de boxer, puis à la limite, c'est lui qui vend les billets achète plus à Shawinigan parce qu'hier, les billets étaient vendus pour le mieux. Ça, c'est un autre dossier. Mais merci, David, d'avoir été là.
C'est un temps à faire. Je veux que je sois content. Comme ça. C'est maintenant que je veux que je suis au lac Saint-Jean. Je me promène. Je veux que je suis tranquille. Je ne regarde pas la boxe. Je veux que je regarde la boxe. C'est un rêve que t'es le rêve des autres. C'était pas mon rêve à moi. C'est de temps en temps, j'aime ça pareil. C'est quoi, c'est rare, j'écoute un rare. J'écoute Laurent de temps en temps, j'écoute parler. Il parle de boxe, j'aime ça. J'aime ça. Je suis bien tranquille. Je suis dans mon coin.
Je vais vous admettre, là, c'est un segment. Ici, je vais défendre mon ami Anthony Lécari et je vais revenir sur toute l'histoire de la France et du Québec. Vous allez voir, il y en a eu de la tumulte dans les dernières années. Le boxeur El Moussadi Fouad était supposé affronter Artem Oganesian, puis il a attrapé la grippe en arrivant ici au Québec, puis il a dit « Écoutez, je vais pas me battre. J'ai la grippe. » Puis il a rencontré le médecin de la régie. Puis ce que le médecin de la régie a dit, il a dit « Écoutez, si c'était un patient qui venait dans mon cabinet, j'aurais tendance à le croire et je vous dirais oui, il est malade et je lui permets de ne pas boxer ou de ne pas travailler. » Tu sais, comme nous on fait quand on est grippé, on va chercher un papier du docteur. Et là, Antonin Descaries, le directeur technique de Eye of the Tiger, est allé cogner à sa porte de chambre d'hôtel. Première chose, il lui a déposé, c'est marqué ici, il m'a proposé une grosse somme d'argent. Là, je veux m'adresser à Antonin Descaries. Antonin, si tu commences à offrir des grosses sommes d'argent aux boxeurs qui sont malades pour boxer, qu'est-ce que tu penses que les prochains vont faire? Ils vont signer un combat, ils vont arriver ici, ils vont se déclarer malades, que ce soit vrai ou pas, puis ils vont attendre que tu arrives avec l'enveloppe. Tu viens de créer un dangereux précédent qui va faire le tour des autres, du monde, puis il y a d'autres boxeurs qui vont essayer d'abuser de toi. Ça, c'est l'expérience qui rentre. Un boxeur qui est blessé, tu n'y offres jamais. Un boxeur qui est blessé ou qui peut-être fait à croire qu'il est blessé, tu n'y offres pas une pièce de plus parce que tu vas te faire jouer un tour dans le futur. Après ça, ce que Moussadi Fouad dit, c'est que Antonin lui a offert des produits dopants me permettant de faire quelques rondes vu l'état lamentable à lequel je me trouvais. Je cite ici Moussadi. Écoutez, là, des produits dopants, Antonin, c'est pas un vendeur de stéroïdes, là, puis des produits dopants à quelques minutes. Parce qu'Antonin, lui, se défend, il dit... Je lui ai proposé d'aller voir le médecin, savoir s'il pouvait avoir une prescription de quelque chose, tu sais, probablement un décongestionnant ou quelque chose. Fait que partez pas en peur avec ça. Là. J'ai vu des sites, d'autres pages de blog un peu s'énerver, puis là, des accusations très graves. Écoutez, Antonin qui se présente dans une chambre d'hôtel pour essayer de convaincre un boxeur de boxer pour sauver un peu sa. Son quart de finale quand il avait déjà perdu sa finale avec David Lemieux, je pense que c'est rien de très grave là. Faisons attention avec les accusations. Je veux vous ramener dans l'histoire de la France et du Québec, comment c'est compliqué. On se rappelle, Reynald Garrido était venu ici affronter Yves Ulysse. Le combat était le swing bout qu'on appelle, le combat de réserve pour les amoureux de la langue française. Et du côté de Garrido, quand il est monté sur le ring, il a appris que le combat était sur 4 rondes alors que son contrat était sur 6 rondes. Mais Garrido, c'était pas le genre à avoir la langue dans sa poche ou à avoir peur de parler. Fait, il s'est vraiment énervé puis il a dit « Moi, je suis ici pour 6 rondes. » Puis ben, on lui a pas donné. Il a pris ses affaires, il a sacré son camp. Puis là, il dit qu'il y a eu de la misère, on a essayé de retenir sa bourse. Puis en tout cas, c'est compliqué, là. Mais je pense pas qu'il y a eu suite de ça. On se rappelle de Hassan Ndam. Il était venu ici au Québec. Puis là, je vais vous le dire, j'ai vérifié le dossier ce matin. Puis ça m'a été pas mal confirmé. Ndam avait approuvé un ring le vendredi soir. Je pense que c'était 19 par 19. Puis dans la nuit, On a enlevé une coupe de planche pour que le ring soit plus court pour favoriser David Lemieux, le cogneur contre Endam. Et Endam n'était pas content. Puis imaginez, quelques jours avant l'appel d'offres, le promoteur californien d'Endam était mort. Ce qui avait permis à Camille et Stéphane de se ramasser seul à l'appel d'offres puis de mettre le minimum de 102 000 pour un combat de championnat du monde. Fait que Endam était ici pour 51 000. Il a vu tout son argent disparaître dans la poche de ses entraîneurs, ses sparring partners, puis tout. Boxait quasiment gratuitement. Après ça, il voit le ring perdre mystérieusement 3 pieds pendant la nuit, après quelques modifications. Puis, il fait pas une pièce. Et son entraîneur, là, c'était un petit avec un béret. Là, vous allez me dire, en France, tout le monde a un béret, mais il était petit. Puis, il s'est enflammé dans une conférence de presse. Je me rappelle, Bernard Hopkins avait déclaré, « Qu'est-ce qu'il dit? » Puis je me rappelle pas qui avait traduit. Il dit qu'il adore ça être au Québec. Mais il s'était plaint là, pendant des minutes puis des minutes. Et tout ça nous mène à Newfell ou Uata, un poids lourd. Lui avait accepté d'affronter Adam Redwood le 7 décembre dernier. Rappelez-vous ce qui est arrivé. Son père est mort. Il a accepté le combat quand même. Puis là, il a dit « Je dédie le combat à mon père. Je vais être motivé comme jamais. » Le gars avait représenté l'Algérie aux Jeux Olympiques. Après ça, il embarque pas dans l'avion, puis il dit « Ah, genre, finalement, je vais pas me battre. Mon père est mort, puis ça m'a occupé. » Mais c'est parce que c'était ta motivation au début, puis après ça, t'es pas venu. Puis là, ça nous mène à ce boxeur français, El Fouadi, qui, lui, ben a déclaré qu'il avait la grippe pour pas affronter Artem Oganesian. Donc, tout ça, je veux juste vous dire, vous venez de comprendre pourquoi on appelle autant de Mexicains. Les Mexicains, eux autres, ils attrapent pas la grippe parce qu'il fait chaud. Puis ils se plaignent jamais. Tandis que les Français, c'est compliqué un peu.
Le soir de la Saint-Valentin, j'étais toute seule chez moi à consulter Badou. C'est là que j'ai rencontré Laurent. Je me doutais que c'était pas un romantique quand il m'a invité au resto-bar le coin du métro. J'ai rapidement été conquise par les ailes de poulet savoureuses et bien charnues, tout comme lui. Le resto-bar le coin du métro, au 10719 rue La Jeunesse à Montréal, la place pour une première date.
J'ai encore envie de chialer parce que c'est mon sport préféré. Je vais vous parler des prochains combats à venir. Beaucoup la carte du 28 mars à Québec. Mais j'ai découvert des choses. J'ai rien découvert. Là. Je vais vous mentionner des choses. Premièrement, je suis fâché parce qu'on est présentement le 23 février. Et il y a seulement 2 combats d'annoncés sur la carte de jeudi le 12 mars. Au Casino de Montréal de Eye of the Tiger et samedi le 14 mars au Casino de Montréal. Si vous me suivez religieusement, vous savez que je suis toujours en colère parce que pour moi, on ne devrait pas me vendre un billet sans me donner beaucoup, un peu, d'informations sur la carte. Pour moi, c'est pas assez. Tu sais, la carte du 14 mars à Montréal, j'ai un seul combat d'annoncer. Tu sais, c'est dans 3 semaines. Là. Grouillez-vous, faites vos annonces, mais des combats à dernière minute, ça me fâche. Fait que c'est ça. C'est un peu, je voulais vous parler des annonces des prochains mois. Le 12 mars prochain, on a Sadridine Akhmedov contre Mario Lozano et Steven Butler contre Marco Reyes. Le 14 mars prochain, au Club des Lions à Moncton, au Nouveau-Brunswick, Raymond Oluboual. Si vous suivez la boxe québécoise depuis longtemps, vous savez que Raymond Oluboual, vous l'avez vu à Victoriaville contre David Cadieux en 2005, contre Paul Mbongo, qui était un bon prospect québécois à 2 reprises 2005-2006, David Cadieux, plus récemment en 2012, Éric Martel-Baouli, Éric Martel-Baouli en 2013, Barak en 2016, et là, il revient en 2020, âgé de 50 ans, le Mont Kilimanjaro est de retour, boxeur nigérien. Pourquoi je vous en parle? Parce que moi, je vous gagerais mon pied gauche qu'un jour, s'il remporte son combat de retour, on va l'amener contre Simon Kane, même s'il a 40 ans, parce que c'est un gars durable, puis c'est un... C'est un bon boxeur. On va le voir au Québec, ça, je vous en fais la promesse. Peut-être pas contre Simon Kane, j'ai un peu exagéré. C'est ça, le 14 mars, on poursuit la chronologie. On n'a pas d'adversaire pour Mathieu Germain.
Je le connais, l'adversaire, mais écoutez, c'est pas à moi de l'annoncer. Et Lexon Mathieu va affronter Ryan Young pour la NABF. La carte du 21 mars à Montréal a un peu bougé cette semaine. On a changé l'adversaire de Maslow McDonough pour un moins bon. Pour le reste, ça se tient. J'ai hâte à ce gala du 21 mars. Et ce que j'avais envie de vous parler, c'est vraiment le 28 mars à Québec pour être la carte de l'année. ESPN qui vient faire un tour à Montréal. Et j'ai des infos, là. Vous allez tomber en bas de vos chaises. Arthur Beterbiev va affronter Fenlong Meng. Ça, vous le savez. Janibek Ali Kanouli. Lui, là, c'est un boxeur kazakh, c'est écrit champion du monde dans son front, va affronter Demetrius Ballard. Là, je veux vous dire, Oscar Rivas n'est pas la demi-finale, c'est mon ami Nathalie Bruno qui a enquêté ça. Nathalie, que j'aime bien, j'espère qu'elle nous écoute. Oscar Rivas ne fera pas un combat de grande envergure parce que Marc Ramsey veut consacrer toute son énergie sur Arthur Beterbiev. Donc, Rivas, attendez-vous à un combat de retour, rien de trop compliqué le 28 mars. Et Mikhaïl Zouski, il y a des infos qui racontent que on est tout près d'une très grande annonce. Donc, restez sur le qui-vive. Mbili va être sur la même carte. Et Christian Mbili et Patrice Volny. Ce que je veux vous dire, tenez-vous bien, là. Puis je fais même pas un segment spécial avec ça. Les gens qui écoutent du début à la fin auront le luxe d'entendre ça. Yvon Michel, quand il est sorti en conférence de presse il y a 2 semaines, puis qu'il a dit « Je m'occupe pas de la compétition, il n'y aura pas de hashtag takeover, hashtag bataille, hashtag war. » Il dit « Je veux travailler avec tout le monde. » Ça, là, c'était un petit truc parce que Yvon est dans une forme olympienne et, tenez-vous bien, il y a des projets plein la tête. Dans les prochaines semaines, et ça, vous l'aurez entendu ici, en exclusivité, vous allez apprendre que Marie-Ève Dicker affronte Clarissa Shields. Ça, c'est pas ça, mon exclusivité, là. Mais ça va être réglé. On va aussi apprendre que Elander Alvarez va probablement affronter finalement Joe Smith parce que Gilberto Ramirez ne sera pas intéressé. Il y a eu un appel d'offres cette semaine. Ça a été gagné par Top Rank à 350 000 pour organiser un combat entre Gilberto Ramirez et Elander Alvarez dans le cadre d'un tournoi. Ce que je vous dis, c'est que Gilberto Ramirez ne sera pas satisfait du 175 000, va se sortir de ça, puis on devrait amener Joe Smith en renfort. Yvon Michel, et là, accrochez-vous après vos flûtes, a probablement convaincu Top Rank, selon ce qu'on entend dans le monde de la boxe, pour que Jean-Pascal défende son titre au Centre Bell en juin avec Elander Alvarez en demi-finale. Le tout pourrait nous mener à un combat entre Elander et Pascal. Revanche avec certains titres en jeu. Probablement que là, Elander, entre-temps, pourrait mettre la main sur le titre de la WBO. On espère que Pascal conserve celui de la WBA. Et là, pourquoi pas un combat d'unification? C'est dans les tablettes. Est-ce que tout le monde va rester invaincu? Est-ce qu'on va se rendre? Ça, je ne le sais pas. Maintenez-vous bien, Jean-Pascal au Centre Bell en juin. Je parle pas trop fort pour pas alerter trop de monde. Donc, ce que je veux juste vous raconter, c'est que ça... Attendez-vous, là, à ce que ça bouillonne les nouvelles dans les prochaines semaines.
Au revoir. Et selon les statistiques, on l'a vu dans le reportage tantôt, il y a un homme sur 7 qui va recevoir un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie. C'est ce qui est arrivé à notre invité en studio, Laurent.
Un jour, j'étais avec mon bon ami Jean-Philippe Ouimette et ce matin-là, on avait été demandé par Punching Grace, la chaîne de diffusion de Eye of the Tiger, pour aller faire un après-match. Puis on se dirige là-bas. On arrive toujours à l'avance parce que la ponctualité est le langage des rois. Fait que moi puis Jean-Philippe, on est en avance, on est assis dans les modestes bureaux de Eye of the Tiger à Pointe-Claire. Puis François Pratt est là, Emmanuel Estéphane, il y a des gens de boxe. Et là, on entend tout, un nom qui revient tout le temps, Boupas, Boupas, Boupas. Puis il parle, tu sais, je vois là, de l'admiration, je vois les yeux d'Emmanuel et Stéphane qui scintillent déjà. Mais là, là, c'est l'étape de plus. C'est quasiment des feux d'artifice dans ses yeux quand elle parle de Boupas. Puis moi, j'avais peut-être manqué un peu ça. Je comprends pas trop. J'arrive chez nous, je commence à googler André Boupas Ivitchuk. Il y a des abonnés, là, il y en a des centaines de mille qui le suivent sur Instagram. C'est lui qu'on voit faire les pads avec Artem Oganesian quand Artem il est en pleine vitesse. C'est lui qui est capable de suivre. Il entraîne Romanov, c'est le dernier, le dernier à avoir knocké Deontay Wilder. Maintenant, l'avant-dernier, au moment où on enregistre avec la victoire de Fury, c'est lui qui est l'entraîneur de Romanov. Il est l'entraîneur de Artem Oganesian. Il est l'entraîneur de Audrey Efremenko, qui est aussi signé chez Eye of the Tiger. C'est lui qui a repris Batyr Jukanbayev après les incidents de Stéphane Larouche. Il entraîne un cruiserweight nommé Alexis Papin. Et Papin, je vous avertis, c'est la grosse affaire, devrait se rendre très loin. C'est lui, il s'occupe de plusieurs boxeurs plusieurs combattants d'arts martiaux mix en Russie. Donc, tu sais, c'est un peu, c'est gros, là, mais c'est un peu le futur Marc Ramsey russe. C'est un homme d'une immense compétence. Puis il me fait penser un peu à Ross Amber aussi parce qu'il y a une compagnie de. Il y a une compagnie de vêtements là-bas en Russie. Et là, tenez-vous bien. Boupas, là, je vous le dis, là, Camille et Stéphane, Anthony Descari le voient dans leur soupe. Tu sais, quand ils se sont permis un peu de tasser Stéphane Larouche après une histoire qui n'en finit plus, là. Mais c'est parce qu'il y avait Boupas dans leur manche. Ils se sont dit, si Marc Ramsey ne peut pas les prendre au tout, on va en donner à Boupas. Puis il y avait même eu un moment où Boupas était supposé venir vivre au Québec. Ça n'a pas fonctionné. Boupas, lui, a une seule chose. Il veut que ses boxeurs frappent fort. Il veut que ses boxeurs frappent souvent. Puis il ne veut pas perdre de précision. Il ne veut pas que tu passes dans le beurre puis que tu deviennes vulnérable. T'sais, quand tu frappes, c'est ça la cible. Et là, tenez-vous bien, Régent Tremblay, ce matin, nous apprend que Simon Kane pourrait aller vivre en Russie puis s'entraîner avec Boupas. Ça, moi, j'en reviens pas. Imaginez, le pauvre Simon, déporté en Russie, va être tout mêlé. Il y a des langues un peu sales qui vont dire qu'il a déjà l'air mêlé au Québec, mais ça, c'est d'autres choses. Fait que là, Simon Kane pourrait aller s'entraîner avec Boupas en Russie. Ce que je veux juste vous amener sur Boupas, un peu vous le faire connaître, c'est l'homme avec les mains les plus rapides au pad. Comme je viens de vous dire, c'est un gars qui il veut que ses boxeurs soient précis puis frappe avec beaucoup de puissance. Et dans les prochains mois, vous allez le voir un peu partout. Est-ce qu'il va entraîner Simon Kane? On peut s'en douter. Mais Romanov est rendu dans le top 15. Alexis Papin, Artem Oganesian, Batyr Jukanbayev. C'est quelqu'un qu'on va voir souvent dans les prochains mois. Et je voulais vous le présenter un peu. André Ivitchuk, surnommé Boupas, la carte cachée d'Eye of the Tiger pour entraîner leur jeune boxeur d'Europe de l'Est. Le mot de la fin pour cet épisode fort chargé en émotions, je voudrais revenir sur les propos de David Tétrault, de mon ami de Boxe au menu, sur leur page. Allez vous abonner en grand nombre. Moi, tant qu'à avoir de la compétition, je préfère qu'elle vienne d'amis, des gens que je respecte, en David Tétrault et Maxime Gabriel. David, lui, il mentionnait qu'on est dur avec Simon Kane. T'sais, pensez-y, là. Le combat d'Artem Oganesian tombe à l'eau. Le combat de David Lemieux tombe sur le dos à cause de David a pilé dans une flaque de glace. Et là, on parachute Simon Kane en finale. Simon, tu sais qu'on le connaît, c'est un type qui est un peu anxieux, qui est un peu angoissé, tente d'en faire beaucoup souvent sur le ring. Il y en a, tu sais, on se rappelle, Lucien Bouteille a besoin d'un psychologue sportif pour faire aller ses mains. Je pense que Simon Kane en aurait besoin d'un aussi, parfois. Mais quand même, c'est lui qui se ramasse la tête d'affiche. Il se pointe sur le ring, fait ce qu'il a à faire, passe le KO à Daniel Mars. Je veux dire, c'est pas lui qui... C'est pas de sa faute s'il se ramasse en finale. Là. C'est un concours de circonstances. Il y a 4500 personnes qui ont acheté leur billet à Rimouski. Puis il fait ce qu'il a à faire. Il est sur la télé. Puis c'est lui qui ramasse un peu le spotlight d'être obligé de faire beaucoup d'entrevues avant. Je trouve qu'on est dur avec Simon Kane. Puis je vais vous l'annoncer, là. Tu sais, Simon Kane, il sera jamais champion du monde, OK? Mais Robert Cléroux l'a pas été. Il a un boulevard à son nom. Puis c'est un des hommes les plus respectés avec une des plus belles histoires dans le monde de la boxe au Québec avec sa trilogie contre Georges Chivalo. David Cadieux a jamais été champion du monde. Qui a quelque chose à dire contre David Cadieux? On a eu du fun. On a vécu des émotions incroyables à Shawinigan puis à Trois-Rivières quand il a affronté Patrice Lheureux. Je dirais même la même chose du regretté Patrice Lheureux qu'on n'oublie pas. T'sais, on savait tous qu'il allait pas être champion du monde. On a tous trippé à le suivre. Puis il a même eu une belle carrière après dans les médias à Box Rock où il animait. Puis il y avait une compagnie de granit. C'était un homme d'affaires à succès aussi. Je vais même vous mentionner Jean-François Bergeron. Lui, on avait plus d'aspirations puis d'attentes sur Bergeron. On a cru par moment qu'il pouvait jouer avec l'élite. Puis quand il a affronté le géant russe, Valouev, il a eu ses moments. Puis au deuxième, il l'a même ébranlé. Mais après ça, il n'a jamais joué avec l'élite. On a vu, ça a été très rapide contre Dominic Wynn. Puis est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire contre Bergeron? Non, on l'a tous apprécié. On l'adore, Bergeron. Puis il prend encore des photos, il serre des mains, il embrasse des bébés. Il est devenu un pompier aujourd'hui. Puis il a entraîné plein de boxeurs, est impliqué dans la boxe olympique. Je veux dire, virons pas fous, là. Ils ne seront pas tous champions du monde. Là. Ça, c'est une autre annonce que je veux vous faire. Mais, entre-temps, mais Simon, il permet à tout ce monde-là de faire des sous-cartes. Il permet à Thomas Chabot d'avancer dans sa carrière. Il a permis à Léla Beaudoin de boxer. Il aurait permis à Artem Oganesyan de boxer si c'était pas du français qui a attrapé une bonne grippe québécoise. Donc, on en a besoin. Il a rempli l'aréna à Shawinigan. Ce que je veux vous faire, là, c'est un nod à Simon Kane. Je veux qu'on replace nos attentes. C'est pas de sa faute à Simon Kane. C'est quand il était 6-0, Camille et Stéphane a mis Simon Kane puis Vitali Klitschko dans la même phrase. T'sais, il a probablement jamais demandé ça, Simon. Fait que, en conclusion, là, Simon, les abonnés ici puis les millions de personnes qui écoutent, on te lance de l'amour. Donc, fin de l'émission sur le thème de l'amour. À la prochaine.